Bonjour à vous, en cette fraîche journée d'automne, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jason Pédagogie Numérique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme engagée, une femme inspirante dont le sourire contagieux nous ferait presque oublier les souffrances des longues corrections d'évaluation un beau samedi matin, alors que le ciel est bleu et que tout le monde joue dehors. Oui, effectivement, Azra Azenafendic, c'est Madame Évaluation. Ce qu'il importe dans le milieu de l'enseignement, c'est que chaque apprenant atteigne son plein potentiel dans son parcours académique. Et cela implique un accompagnement engagé du personnel enseignant dans la manière dont s'opère l'évaluation. Vous êtes-vous fait déjà, vous, évaluer par vos étudiants et étudiantes à la fin d'un cours? Ou encore, leur faites-vous parvenir vos critères d'évaluation avant de mesurer leur apprentissage? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette rencontre détendue. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Mais moi, je suis ravie, Azra, de te rencontrer aujourd'hui. Ça fait vraiment quand même quelques, je dirais 2 ans là que je te suis sur les réseaux sociaux. T'es arrivée comme une super rayonnante avec plein d'idées. Et ce qui m'a intéressée vraiment, c'est la question de l'évaluation. Je dirais que on commence à en parler de l'évaluation avec l'émergence de l'IA générative. Mais c'est vrai que tu en parlais déjà bien avant. Et ben, je vais te laisser te présenter. Puis ensuite, après, j'aimerais savoir aussi, mais comment t'en es arrivée à l'évaluation et à tout ça? Je veux tout savoir.
Oui, ben premièrement, merci de me recevoir. Également, merci pour tous ces beaux mots. Je te retourne en fait le compliment. Je t'ai suivi aussi, puis je trouve ça extraordinaire les partages que tu fais. Donc, merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Azra, je suis la fondatrice de Zélexio. Dans le fond, Zélexio, c'est une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle afin de dresser un portrait global de l'élève suite à une évaluation. Donc, c'est assez clair, je suis une passionnée finie de l'évaluation. Je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de professionnels dans le domaine parce qu'ils voient ça comme une lourdeur. Pourtant, c'est tellement simple, c'est tellement rapide, puis c'est tellement fait sur un effet afin de promouvoir l'apprentissage auprès de tous les élèves, de tous les étudiants. Puis, en fait, je suis une enseignante de formation. J'ai fait mon bac d'enseignement ici à l'Université de Sherbrooke. Je suis de Sherbrooke. Et par la suite, j'ai fait une maîtrise en littérature canadienne. Donc, je suis une passionnée de littérature également. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité d'être chargée de cours à l'université pour donner justement le cours d'évaluation parce que malheureusement, le monde ne sont pas au courant, mais sur un 120 crédits à l'université, il y en a seulement que 3 qui sont attitrés à l'évaluation. Donc, on se retrouve avec des professionnels, des pédagogues sur le marché où est-ce qu'ils vont prendre soit des mauvais plis qu'ils ont appris des enseignants associés ou ils vont être en mode survie. Mais 3 crédits sur 120 pour parler d'évaluation, selon moi, n'est pas du tout assez pour bien se l'approprier.
Ah, donc ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que dans la formation des enseignants, cette question, en fait, de l'évaluation n'est pas une question centrale dans la manière dont on évalue, etc., et qu'il n'y a que 3 crédits, c'est bien ce que j'ai compris. Donc, ça fait vraiment pas beaucoup, là.
Oui, pas du tout. Il y a seulement 2 universités qui en offrent 6. Toutes les autres, à travers le Québec, on a fait nos recherches, puis c'est réellement 3 crédits qui sont seulement attitrés à l'évaluation. Donc, la création de grilles, comment suivre la progression des apprentissages. Donc, ça fait peur, honnêtement, de savoir que l'outil le plus essentiel, en fait, c'est la base de tout, qu'il n'y a pas autant de temps qui est accordé lors de la formation professionnelle des enseignants.
D'accord. Donc, moi, ce que je comprends, en fait, c'est que tu viens du milieu de l'enseignement et de ce milieu de l'enseignement et des observations que tu as faites et sur le terrain et en enseignant aussi, tu t'es rendu compte du fait que l'évaluation sur laquelle, justement, on base la réussite scolaire, on en reparlera peut-être après, est une évaluation qui se reflète par, pour certaines universités qui forment les enseignants, 3 crédits. Il y en a très peu qui sont à 6 ou 7, c'est ça? Et à partir de là, toi, tu te dis, je vais me lancer dans quelque chose qui va permettre aux enseignants de les accompagner dans leur évaluation. Mais au-delà de l'outil, qu'est-ce qui t'a un jour allumé sur le fait que, mais
l'évaluation ne devrait pas se passer comme ça. Déjà, premièrement, c'est est-ce que toi-même, tu as eu, du fait de ton expérience, des impasses? Quand est-ce que tu t'as commencé à dire non, mais la manière dont j'évalue, c'est pas ça? Ou est-ce que tu as toujours eu une super pratique d'évaluation?
Non, ben en fait, pas du tout. C'était tout un apprentissage. Pour moi, c'est un apprentissage de carrière que j'appelle parce que quand j'ai commencé ma première année d'enseignement, je me suis retrouvée dans une école avec un bureau vide où est-ce que je suis arrivée et je pense que j'étais la 6e enseignante pour ce poste-là. C'était même rendu un peu le « Ah, ce poste est sacré, les enseignants restent jamais ». Donc, je me suis informée auprès de la direction en leur posant la question « Est-ce que vous avez des grilles d'évaluation? Est-ce que vous avez de la planification? » La réponse, elle a été « Ah, ben si l'enseignant de l'année suivante n'a rien laissé, débrouille-toi. » Donc, j'ai pris les mauvais plis de carrière dès le départ. Ce qui arrive pour la majorité des enseignants, c'est qu'on tombe en mode survie. Donc, on se met tellement à planifier les cours qu'on ne pense pas à l'évaluation. Donc là, on se retrouve à la fin de l'étape ou à la fin d'une SAE, dans le fond, une situation d'apprentissage. Et là, c'est là qu'on bâtit l'évaluation, ce qui n'a pas de bon sens parce que on se pose la question, ah, c'est quoi j'ai enseigné? Ah oui, il faudrait que j'évalue ça. Donc, en partant, on n'est pas juste envers les élèves parce que on leur montre quelque chose sans nécessairement avoir une intention pédagogique claire dès le début. Fait que ça, c'est des mauvais plis que j'ai pris, puis j'ai constaté ce qui arrivait, c'était ça venait beaucoup sur la finalité, puis ça avantageait pas du tout les élèves, puis ça faisait en sorte que moi-même, j'étais en mode survie, puis là, je prenais des grilles, je savais pas comment nécessairement bâtir une grille à part les 3 crédits que j'avais appris. Donc, fais des recherches, et ce que j'ai constaté également, c'est, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est tabou, mais beaucoup d'enseignants, même professeurs ou des chargés de cours, ont la difficulté à partager leurs grilles par peur de se faire juger.
Donc, c'est vrai! T'as raison!
C'est vraiment vrai? De réalité. Donc, moi, quand je posais des questions, « Ah, pourrais-tu me partager une grille? » Il y avait tout le temps, il y avait des enseignants qui, eux autres, justement, c'était des pros d'évaluation. « Ah, pas de problème, prends ma grille. » Puis là, t'avais ceux-là qui ont un peu appris sur le tas, comme on peut dire. Ils ont appris avec l'expérience. Puis là, ils réalisent que ils savent peut-être que leur grille n'est pas nécessairement à la hauteur, mais ils continuent quand même de l'utiliser, mais ils ne souhaitent pas la partager nécessairement. Donc, tu sais, ça vient un peu un cercle
vicieux. De faire du jugement, hein.
Tellement. Donc après, je te dirais un bon 4 ans à rouler comme ça en mode survie, là, je me suis dit non, j'arrête parce que je trouvais pas que je me rendais service et je ne trouvais surtout pas que je rendais service en apprentissage auprès des élèves parce que quand on tombe dans ce cycle, tu sais, ça vient très dangereux parce qu'on va se concentrer sur la finalité. Puis là, on vient appuyer le stéréotype classique de l'éducation où est-ce que tout ce qu'on apprend, une fois qu'on a le diplôme, on délaisse nos apprentissages.
On le met de côté,
exactement. Fait que, tu sais, je faisais partie un peu de ce cycle-là. Puis ouais. Je me dis non, je veux faire partie des enseignants qui vont promouvoir l'apprentissage durable, l'apprentissage organique, puis faire en sorte de redonner le pouvoir à l'élève pour que lui-même ou elle-même puisse vraiment prendre les devants dans leur apprentissage parce qu'il faut qu'ils soient conscients d'où est-ce qu'ils sont rendus. Puis quand on fait beaucoup trop de finalités, mais là, c'est juste la note qui compte, c'est juste la note.
Puis quand on
leur demande de dire, OK, ben t'es rendu dans tes apprentissages, où est-ce que ça va bien, où est-ce que ça va moins bien? Puis quand on leur pose la question, est-ce que ça va bien, il y a un délai de réponse. Parce qu'ils sont tellement centrés où est-ce que ça va pas bien qu'ils prennent pas le temps de réaliser « Ah non, mais c'est vrai, je suis bon dans telle chose. » Fait que c'est là que l'évaluation va rentrer en compte. Je te fais une petite anecdote bien banale où est-ce que j'ai déstabilisé les élèves au complet. C'était le chaos, c'était tellement drôle. J'avais fait une production écrite, je leur ai demandé de faire une analyse littéraire parce que je suis une fan de littérature. Donc là, ils analysent, je leur remets leur production écrite avec ma grille, mais sans notes, que des commentaires. Et là, je leur redonne, et pendant les 15 minutes, je les voyais tourner les feuilles. Hey, tourner les feuilles. Ils cherchaient la note.
Ils cherchaient la note.
Oui, c'était la classe au complet. Là, tu voyais qu'il y avait des visages qui étaient confus. Ils comprenaient pas ce qui se passait, mais pourtant, il y avait une grille qui était là, qui était encerclée, avec des cotes, puis des commentaires très distincts, tu sais, des commentaires USB qu'on appelle utiles, spécifiques, bienveillants. Et là, après 5 minutes, ils ont commencé à lever les mains. Ben, Azra, et où ma note? As-tu lu les commentaires que je t'ai donnés? Puis là, ils se roulaient presque les yeux en voulant dire, hey, j'ai pas le temps de lire les commentaires. Moi,
ben
je veux savoir.
Là.
Est-ce que j'ai passé ou j'ai pas passé? Donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic en me faisant dire, c'est incroyable à quel point ils sont endoctrinés à regarder cette finalité-là, puis de le mettre de côté. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à promouvoir, à dire à mes élèves, je veux que vous lisez les commentaires, puis je vais partager votre note une fois que vous allez venir confirmer où est-ce que vous pensez vous situez selon la grille. Et la majorité ont été capables de bien se situer où est-ce qu'ils se retrouvaient et dire « Ah, ben je pense que je suis dans les 70 à cause de telle, telle, telle affaire. » Puis c'est fou à quel point que ça leur a permis de,
ben là,
d'être conscients.
C'était un système d'auto-évaluation là dont tu parles. En fait, à partir de des commentaires et à partir de leur propre évaluation, ils peuvent se permettre de savoir où ils se trouvent. Donc, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans un système un peu de... Tu sais, on parle d'évaluation là, mais il y a différentes manières d'évaluer. Mais est-ce que... on parle d'évaluation, donc j'ai l'impression que pour l'instant, c'est descendant, c'est-à-dire de l'enseignant à l'élève. Mais est-ce qu'en fait, il y a des situations où il y a des évaluations. Moi, j'ai vu que ça se faisait pas beaucoup, là, des évaluations d'enseignants. Alors, moi aussi, j'ai une petite anecdote, là, j'arrive, alors j'en suis enseignée à Hong Kong pendant 7 ans. Donc, il y avait des évaluations. Les évaluations se faisaient vraiment dans tous les sens. Les évaluations par les pairs, les auto-évaluations. Oui. C'était à peu près en 2011, donc c'était déjà très répandu. Et je me suis posé la question de moi, j'arrive la première année où j'ai enseigné là-bas, j'arrive avec une méthodologie d'enseignement qui est occidentale. À l'époque, j'arrive de France et je demande à mes élèves de m'évaluer. Et donc j'ai préparé une grille. Donc à l'époque c'était avec des smileys là, mais il y avait une grille critériée où tu sais je leur disais ben par rapport au cours que je vous ai donné où est-ce que je me situe. Puis les étudiants là hongkongais ils avaient pas l'habitude que l'enseignant demande d'évaluer. Moi je le faisais vraiment dans l'optique de me dire que les personnes qui seront le mieux positionnées pour me dire si le cours était bien, s'ils avaient avancé dans leurs compétences, s'il y avait des choses qui se passaient mal, etc. C'est mes élèves.
Tout à fait.
Donc, je leur ai donné cette grille, puis ils ont fait des yeux, mais très, très ronds. Ils me regardaient en disant, mais est-ce qu'elle est folle ou qu'est-ce qu'elle fait ou quoi? Mais c'était une pratique que j'avais suivie, en fait, d'une enseignante qui le faisait aussi aux États-Unis. Et là, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient m'évaluer. Et ça a créé comme une sorte de système égalitaire au sein même de la classe où, bien sûr, moi, je me permets de donner des évaluations, mais aussi peuvent m'évaluer. Donc, je ne sais pas si toi, c'est quelque chose dont tu as fait l'expérience ici, que tu explores avec les enseignants.
Tout à fait. En fait, ça fait partie du développement autant personnel que professionnel. Puis, je pense que non seulement que c'est un retour vers nous, notre pédagogie, notre façon d'être, mais c'est aussi développer l'esprit critique des élèves parce que je pense que le fait qu'on le fait pas assez souvent, comme tu as dit, ça vient les déstabiliser. Elles ne savent pas quoi écrire. Elles ne savent pas nécessairement faire des rétroactions qui font du sens, dans le sens ils vont répondre « Ah, j'aime pas ton enseignement » ou « Ah, t'es vraiment génial ». Donc moi, quand je leur demandais à la fin de l'année, je voulais que ça soit vraiment spécifique et je leur expliquais, là, je prenais vraiment une période pour expliquer qu'est-ce que c'est faire un retour critique, donc une rétroaction qui est USB, on revient encore utile, spécifique, bienveillante, parce que je leur expliquais, je dis « Si vous dites que je suis cool », est-ce que ça m'aide à savoir qu'est-ce que je fais de bien? Et là, eux autres, ils étaient comme, ah, ben, OK, c'est vrai que c'est pas clair. Donc, là, il fallait vraiment qu'ils soient un petit peu plus spécifiques. Puis ça développe également l'autocritique envers eux. C'est vraiment un muscle, hein. Donc, oui, eux autres, ils allaient de l'avant. Puis là, moi, je prenais en considération tous les commentaires et j'avais toujours la demande qu'ils me nomment 2 commentaires, dans le fond, positifs. Et je leur demandais toujours 2 commentaires constructifs parce que je leur ai dit, personne n'est parfait, au minimum. Fait que je m'attends à ce qu'il y ait de la critique. Dans le fond, quelque chose qui va me permettre d'être encore meilleur, mais il faut que ça soit encore là en formule USB. Donc, on travaillait vraiment beaucoup, plusieurs aspects autant. Puis l'évaluation par les pairs, tu l'as mentionné, moi, je suis une grande fan de l'évaluation par les pairs parce que ça va venir également promouvoir l'esprit critique. Ça va aussi promouvoir la confiance en soi. On y pense pas souvent, mais un jeune de 15 ans qui reçoit de ses pairs, hey, c'est vraiment extraordinaire quand tu as fait telle présentation, ça vient les booster leur
mais même
confiance.
En enseignement supérieur aussi, même dans le réseau collégial, tellement, parce qu'on en a besoin des autres et d'ailleurs, je te dirais même dans le milieu du travail, quand on reçoit un coup d'eau ou une évaluation d'un collègue, ben on est super content, on est reconnu et on sent en fait que cette reconnaissance nous permet de continuer. Donc je pense qu'en tant qu'être humain, à tous les âges de notre vie, je pense que c'est important d'être évalué puis de s'auto-évaluer aussi. Dans la question de l'arrivée de l'intelligence artificielle générative en évaluation, qu'est-ce que ça a changé aussi bien d'une part pour les outils qui permettent d'évaluer mais aussi d'un autre côté sur la difficulté des enseignants ou le remodelage de l'enseignement à avoir et de l'évaluation par rapport à ces outils.
Ben en fait, j'aime toujours commencer par un peu distinguer ce que c'est de la correction versus de l'évaluation, parce que je pense que les gens, des fois, ils ont tendance à mélanger les deux. En fait, la correction fait partie de l'évaluation, mais une correction sans évaluation n'a pas de but. Donc, la correction, moi, je dis toujours, c'est comme un outil unique. Et je donne toujours l'exemple, ma fille peut faire de la correction parce qu'on lui donne le corrigé, elle peut passer. Donc, c'est une finalité rapide, puis c'est quelque chose qu'on peut facilement et rapidement palper la mémorisation ou la compréhension d'un aspect en particulier. L'évaluation, c'est vraiment poser un jugement professionnel de pédagogue sur plusieurs traces, puis ça demande une différenciation pédagogique sur la métacognition de l'élève. Donc, on va évaluer le processus. Ce qu'on sait aujourd'hui, dans le fond, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, la correction ne devrait plus se faire par l'enseignant. Les machines peuvent faire de la correction parce que ça a un but ultime, c'est une finalité, ça rentre dans une, tu sais, on peut boxer ça dans une boîte, puis tu sais, ça a un profil typique. Donc quand je vois des enseignants qui corrigent encore, moi je dis, ben une machine peut le faire, il y a plein d'outils. Oui.
Mais Azra, par rapport justement à cette idée de correction versus évaluation, si je te donne l'exemple, par exemple, on est tous les deux de littéraire, je vais donner l'exemple, par exemple, de la correction d'un texte, donc une dictée, et par contre, l'élaboration d'un, rapport ou d'un texte beaucoup plus long où on va demander en fait à l'étudiant ou à l'élève d'avoir une sorte de réflexion et de pouvoir poser sa réflexion sur le papier. Dans les deux cas, où est-ce que je mets la correction, où est-ce que je mets l'évaluation, où est-ce que les deux sont mélangés? Est-ce que tu vois un peu...
Oui, tout à fait. Ouais? Moi, je leur dis toujours que la correction, elle partira jamais. Dans le sens qu'elle fait partie, c'est si on revient un peu à la pyramide de la taxonomie de Bloom, où est-ce que les trois premiers paliers, où est-ce qu'on va parler de la mémorisation, la compréhension, là, on va utiliser beaucoup de corrections. Fait que c'est essentiel, lors d'une production écrite, justement une analyse littéraire, c'est important de corriger les fautes. Mais je me dis, au lieu que l'enseignant corrige à la mitaine chaque faute, il y a une machine qui peut corriger les fautes et lui faire un rapport de « il y a 15 fautes de type encore des adjectifs, il y a 10 fautes de syntaxe ». Donc encore là, on vient de optimiser en fait le temps. Là, quand on tombe dans les trois plus hauts paliers de la taxonomie de Bloom, est-ce que c'est la création, c'est l'évaluation, exactement, donc la métacognition. Donc là, on va analyser l'aspect de comment que le texte a été écrit, est-ce qu'il y a une belle interprétation des acquis, ainsi de suite. Donc là, on va tenir compte de tous les résultats plus concrets des fautes. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi l'élève a fait des fautes et comment il a incorporé ses fautes à travers sa réflexion. Fait que les deux vont quand même ensemble, sauf que le travail de pédagogue va se faire sous l'analyse du texte et l'analyse de la métacognition de l'élève, dans le fond, sa réflexion de l'élève ou de l'étudiant. Mais je trouve que la correction, aujourd'hui, elle peut être faite à la base. Il y a tellement d'outils qui existent d'intelligence artificielle, en fait, dont les CDC, des outils d'intelligence artificielle, parce que pour le moment, peut-être un jour, l'intelligence artificielle sera en mesure d'évaluer, mais c'est pas le cas. Présentement, il y a que l'enseignant qui peut poser un jugement pédagogique, le professeur, la même chose, parce qu'il faut qu'il soit en mesure d'analyser non seulement ce travail-là, mais également l'élève ou l'étudiant en entier, parce qu'il y a plusieurs aspects qui peuvent impacter l'évaluation. C'est pour ça qu'on appelle toujours qu'une évaluation, c'est beaucoup plus équitable qu'une correction. Parce qu'une correction, c'est représentatif du moment. Logiquement, ce qu'on dit, si on veut tester l'apprentissage durable, si on fait passer un examen un vendredi et on fait passer le même examen le mercredi suivant, s'il y a deux notes différentes, parce qu'il n'y a pas eu d'apprentissage. Donc là, on parle de la correction, fait que ça peut influencer, y a-t-il une peine d'amour, y a-t-il bien mangé, y a-t-il du stress. Versus une évaluation, lorsqu'on on comprend que l'élève y a compris la formule, comment se rendre, dans le fond, le processus réflectif. Là, on le sait que peu importe quand l'examen sera passé, l'élève va se retrouver dans le même barème de compréhension d'évaluation parce qu'il a fait un apprentissage durable. Oui, c'est très bien que tu as souligné ça, la correction, elle fait partie de l'évaluation, mais on voit beaucoup de professionnels utiliser que la correction. Donc, surtout dans les matières technique.
Scientifique, non, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est les maths qui me vient en tête, puisque c'est pour avoir été longtemps sur les bancs. Je me rappelle quand même de documents d'évaluation où c'était un enchaînement de... Il y avait bien sûr le problème à aborder, mais le problème, il est basé aussi sur ta formule mathématique et la réponse que tu vas avoir. Et souvent, c'était, moi, à mon époque, tu as un quart de point si tu as compris la consigne. Tu n'as pas forcément eu bon au résultat, mais... et que ta formule mathématique n'était pas bonne. Voilà, le prof il disait oh bon ben ok, elle a compris quand même. Mais beaucoup, et je dirais 80% de ces évaluations en mathématiques étaient basées sur des formules à résoudre. Donc oui. Où est-ce qu'elle en est l'évaluation et la correction dans ces disciplines techniques scientifiques?
C'est ça, par expérience sur le marché, en me promenant, il y a encore du travail à faire parce que justement, c'est vraiment cette perception-là de finalité que les sciences ou les mathématiques, ça part d'un point puis ça a un autre point d'arrivée. Par contre, c'est tout le processus entre les deux qu'il faut regarder puis il faut essayer de comprendre parce que ça vient un peu là encore là, la stigmatisation de « ah, moi, je suis pas bon en maths ». Tu sais, où moi, les mathématiques, je n'aime pas ça. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui était bon en mathématiques dire « je n'aime pas les mathématiques ». Ça vient avec. Donc, si quelqu'un qui a eu des défis en mathématiques, automatiquement va dire « je n'aime pas les mathématiques ». Mais il se peut que dans le processus d'apprentissage de ce jeune ou de cet étudiant, c'est vraiment l'évaluation. On n'a pas pris en compte sa manière de comprendre la matière, ce qui a fait en sorte que son résultat final, il n'a pas eu. On n'a pas nécessairement analysé pourquoi qu'il ne l'a pas eu, donc automatiquement, ben, il n'aime pas les mathématiques et là, ils viennent de...
Oui, il est pas bon en maths.
Exactement, puis là, c'est les moules préfaites de l'éducation qui se retrouvent. Mais oui, il y a encore du travail à faire dans ces matières-là parce que on associe beaucoup l'évaluation aux langues. Et moi, ce que je trouve super intéressant, que je suis vraiment fière de le partager, c'est que la majorité de notre clientèle chez Elexio, où est-ce qu'on prône l'évaluation, c'est des gens issus en sciences et en mathématiques. Et quand je leur pose la question, oui, je suis vraiment, vraiment comme toute fière. Et leur réponse est toujours, il est temps qu'on s'adapte, il est temps qu'on évalue. Et moi, je veux prendre le devant pour justement permettre à mes élèves de prendre les rênes, si on peut dire, de leur apprentissage. Puis faire de l'auto-évaluation. J'ai eu un enseignant qui l'a commencé l'année passée, puis il est rendu un adepte. C'est un enseignant de physique. Ou est-ce que jamais qu'aurait pensé permettre de l'auto-évaluation sur le processus d'apprentissage lors d'un laboratoire? Et là, il ne jure que par ça. Il dit, j'optimise mon temps. Il dit, je fais du deep learning parce que les élèves se corrigent eux-mêmes. En fait, ils corrigent leur propre, ils évaluent puis ils corrigent leur propre laboratoire. Il y a un processus de réflexion qui est là, qui reste justement, c'est du deep learning puis ça promouve. Fait que tout est possible, mais il faut s'adapter, en fait. S'adapter, c'est évoluer. Moi, je dis toujours ça.
C'est ça. Donc, ça veut dire, en première étape, de vraiment travailler sur cette différence-là entre correction et évaluation. Maintenant, au niveau de l'intelligence artificielle générative, est-ce que ça va pas un peu, je dirais, mettre les bâtons dans les roues, cette question d'évaluation, puisque maintenant on se rend compte que il y a, en utilisant par exemple un outil comme ChatGPT, qui peut, je dirais, développer ou écrire de manière très sensée, des fois des choses qui ne sont pas correctes, mais qu'on peut réadapter. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça rend plus difficile? Comment toi tu le sens au niveau du terrain?
Certainement, il y a plusieurs angles à voir cet aspect-là. Il y a des professionnels dans le sens que pour être en mesure de vraiment s'approprier l'évaluation et la correction avec l'arrivée de ChatGPT, de différents modules d'intelligence artificielle, de création justement de travaux, il faut absolument les comprendre. C'est ce que j'essaie de dire toujours aux enseignants. Je leur dis, il faut absolument que vous compreniez comment ça fonctionne pour être en mesure de justement détecter. Parce que si on connaît pas comment ChatGPT fonctionne, on va recevoir un travail, on va peut-être trouver que le niveau de langue est élevé ou encore si l'élève et l'étudiant sont bons, ils peuvent aussi dire à ChatGPT de l'ajuster en fonction de la
langue.
Mais
bien sûr!
Tout à fait. Donc, ça peut... tu sais, moi, je dis, la machine est toujours aussi intelligente que la personne qui la dirige. Donc, si l'élève a compris vraiment comment jouer avec ChatGPT, je suis certaine qu'il doit tellement déjà des centaines, sinon des milliers de travaux qui passent inaperçus. Et je pense que c'est la responsabilité, en fait, de l'État, du gouvernement, de bien donner la formation sur ces outils-là, parce que c'est sûr que là, les enseignants, les professeurs, c'est tout nouveau. S'il y a une panique, il y en a qui vont l'interdire, il y en a qui savent pas comment le faire.
Mais oui, il y a pas de cadre encore.
Pas du tout. Puis moi, c'est là que j'étais super contente avec l'arrivée de ChatGPT sur plusieurs niveaux, mais surtout sur celui où est-ce que c'est le temps de mettre l'évaluation de la métacognition de l'avant. C'est le temps de vraiment analyser le processus réflexif, parce que j'ai toujours dit, si on demande un travail qu'une machine est capable de faire, il est peut-être temps de repenser ce qu'on demande aux élèves ou aux étudiants. Donc, j'ai donné un exemple justement à une ancienne collègue, parce qu'elle, elle a été dans la panique totale, elle enseignait justement les ceux qui sont en fin d'année du secondaire, et là, elle dit là, habituellement, ils font justement des analyses littéraires, qu'est-ce que je fais, comment je m'assure que c'est pas ChatGPT qui le produit. Mais j'ai dit, ben regarde, utilise-le à ta guise, prends ta grille, fais asseoir tous les élèves, il y avait déjà leur ordinateur en classe, puis j'ai dit, demande-leur que eux demandent à ChatGPT qu'ils fassent une analyse littéraire du livre que tu es en train de lire. Fait que là, elle dit, bon, mais là, ils vont faire leur travail. J'ai dit, oui, fais-les faire. Puis là, tu leur donnes leur grille, et en fait, la grille qu'elle utilise elle-même pour les élèves, tu la donnes aux élèves, et là, demande aux élèves d'évaluer la performance de ChatGPT. Et là, elle a comme eu un arrêt, parce qu'elle a dit, ah! J'ai pas pensé à ça. J'ai dit, ben oui, parce que si l'élève a bel et bien lu le roman, il va être en mesure de donner une note à l'analyse de ChatGPT. Et s'il n'a pas lu le roman, il sera pas capable d'évaluer. Et par la suite, tu peux leur demander qu'ils écrivent une analyse, comment ils ont trouvé l'expérience et comment, parce que ChatGPT a ses limites, puis il faut l'utiliser pour les connaître, oui, les limites.
Exactement.
Donc, c'est un peu ça, mettre vraiment cette évaluation-là, puis donner l'autonomie aux élèves. Puis je suis pas en train de dire de faire ça avec chaque évaluation, mais justement, hier, j'étais avec un enseignant de chimie et il connaissait pas ChatGPT. Fait que j'y monte. Là, j'ai dit, tu sais qu'il fait des rapports. Fait que là, j'ai dit, écrit. Fait qu'il le fait. Et sa face qui fait, oh my God, OK, parce que les élèves peuvent leur demander ça. Fait que j'ai peut-être déjà reçu des rapports. J'ai dit, oui, c'est pour ça qu'il faut faire l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs, évaluer le processus, parce que, encore là, je reviens, si une machine est capable de faire ce qu'on demande, peut-être faut repenser à ce qu'on demande.
Exactement.
Tout à fait.
Effectivement.
Tout à fait.
C'est cette question des rapports, en fait, j'en ai parlé justement aujourd'hui avec une collègue qui est enseignante aussi en physique, puis qui disait que eux, ils utilisaient en fait les enseignants au Cégep utilisaient ChatGPT et poussaient les étudiants à utiliser ChatGPT, parce qu'en fait, je pense qu'ils s'étaient dans les rapports en fait de sciences, ils sont redirigés, ils ont réfléchi ensemble, je pense, à un accompagnement à avoir, alors qu'il y a d'autres établissements qui ont laissé tomber. Ils se sont dit, là, si le rapport peut être fait par la machine, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire le rapport? Et est-ce qu'on ne devrait pas leur demander autre chose? Donc, je pense que chaque établissement et chaque, je dirais, département a sa manière d'appréhender cet outil, ou du moins l'utilisation de cet outil par les étudiants. Mais par contre, effectivement, là, ça peut être un très gros problème si l'enseignant n'est pas au courant.
Oui.
Alors, nous qui sommes dedans, c'est impossible de ne pas être au courant, mais non, il y en a encore qui sont pas au courant.
Ah oui,
pas du tout. D'où l'intérêt un peu de l'évaluation par les pairs, parce que moi je sais que j'apprenais beaucoup des étudiants en les faisant évaluer les uns les autres, parce que des fois il y avait des ils faisaient des sourires.
C'est exactement ça. Puis eux autres, ils vont tellement le savoir, ils vont être les premiers avant même l'enseignant. Fait que oui, ça lit dans mes pensées. Fait que oui, il faut absolument leur donner la parole, parce que eux autres, entre eux, ils savent, puis ils se connaissent aussi entre eux, puis ils ont passé plusieurs années ensemble aussi, faut calculer, ils sont peut-être pas toujours dans la même classe, mais effectivement, l'évaluation par les pairs peut permettre aussi d'avoir un regard un peu plus différent, puis sans subjonctivité vis-à-vis le travail qui a été fait. Fait que je suis entièrement d'accord.
Mm-hmm. Tout à fait. Mais tout à l'heure, tu disais par rapport à l'évaluation, enfin tu disais quand t'es arrivé dans le milieu de l'enseignement, tu disais que généralement les profs, ils étaient tout de suite dans leur plan de cours, dans le développement du cours, etc. Puis ensuite, après, des fois, cette question de l'évaluation, c'est sûr qu'on voyait un peu, on voit généralement une évaluation un peu holistique. On se pose pas encore la question de comment ça va se passer, comment on va enclencher les différentes manières de d'évaluer. Et la dernière fois, on avait eu cette conversation où tu disais que tu mettais aussi de l'avant le fait de pouvoir faire découvrir aux étudiants les grilles d'évaluation avant même de commencer le cours. Est-ce que tu penses que ça doit faire partie intégrante dès le début du cours, dans son plan de cours, d'avoir intégré en fait les évaluations qui sont peut-être critériées, mais des évaluations, le soumettre aux étudiants? Et en quoi tu penses que ça peut bloquer certaines personnes, et en quoi tu penses que ça peut être bénéfique pour les étudiants?
J'adore la question parce que c'est exactement ce qui se passe sur le terrain. Justement, okay. Il y en a qui vont entendre. c'est parce que quand j'ai eu mes mauvais plis de carrière en début de carrière, comme j'ai dit tantôt, c'est ce qui arrivait, c'est que j'arrivais à la fin de l'étape et là, je faisais ma grille. Donc, j'avais pas nécessairement l'intention. Pourtant, l'évaluation, c'est le point de départ. Parce qu'on devrait se dire, bon, qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent pour les deux prochaines semaines, pour les trois prochains mois? Et à partir des notions qui vont sortir, là, on peut se dire, OK, ça, je vais l'évaluer de manière critériée, ça, je vais faire une correction. Et là, on bâtit, en fait, le travail. Moi, je donne toujours un exemple très concret. Imagine qu'on s'en va en forêt. Et là, je dis à mes élèves, à mes étudiants, bon, tout le monde, on va aller faire une marche dans la forêt. Et là, ils sont tous excités. Puis là, je dis, j'aimerais ça vous porter une attention particulière à ce qui se trouve autour de vous. Et c'est la seule chose que je dis. Puis là, dans la forêt, on a du fun. Une fois sorti de la forêt, l'évaluation arrive et je leur demande, qu'est-ce que vous avez constaté sur les conifères? Quel type de couleur qu'il y avait de tulipes?
Il y avait combien de champignons?
Exactement. Et là, ben tu sais que ça va être la panique totale, l'anxiété. Ah, ben là, il fallait qu'on regarde les tulipes. Ah, il fallait qu'on regarde. Là, c'est la panique totale. Puis il y en a sur une petite parcelle des élèves qui vont avoir les bonnes réponses déjà parce qu'ils ont tenu compte. Puis c'est beaucoup plus simple pour eux. Parce que c'est sûr qu'il y a différents types d'élèves, mais il y a des élèves qui ont besoin d'avoir une intention pédagogique claire dès le départ. Donc là, en faisant, comme tu as dit, en partageant les tensions dès le début, c'est comme dire avant de rentrer dans la forêt, OK, tout le monde, portez une attention particulière aux fleurs, sans nécessairement leur dire, là, allez vérifier le nombre de couleurs de telle tulipe, mais alors, donnant un petit flag, en fait, en disant, portez une attention particulière aux fleurs, j'aimerais ça que vous portez une attention particulière aux conifères, puis également au sol. Tu sais, prenez des observations. Fait que là, eux, ils savent exactement vers quoi diriger leur attention, sans nécessairement dévoiler le tout. Donc, par eux-mêmes, ils vont développer, et là, en sortant de la forêt, quand on va avoir des questions plus justes sur l'évaluation, on va apaiser ce moment de panique puis de bourrage de crâne, comme qu'on dit, là, les élèves qui étudient la veille. En fait, en faisant comme ça, puis en faisant une évaluation régulière, l'élève, logiquement, ne devra pas étudier pour son examen. Il devrait seulement réviser la veille sans avoir ce moment de panique, de sortie de la forêt, où est-ce que... Oh my God, il va y avoir des questions sur des tulipes. J'ai même pas remarqué qu'il y avait des tulipes. Là, il essaie de revenir en arrière. Fait que ça peut éviter ça quand on a une intention pédagogique qui est claire dès le départ. C'est vraiment leur permettre de savoir, voici sur quoi je veux que vous portez une attention particulière, parce que c'est ce que il va être évalué à la fin de la session, à la fin. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur le terrain, qu'il y a pas beaucoup d'enseignants partagent, ou même des professeurs qui ne partagent pas nécessairement leur grille avant même qu'ils commencent l'évaluation. On reçoit la grille à la fin.
Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses que c'est... Parce que c'est quelque chose... tu sais, tu le dis, c'est complètement évident. T'sais, avec l'image de la forêt, là, je me dis, mais oui, effectivement. Mais qu'est-ce qui a fait que la grille d'évaluation et le côté... Alors moi, j'ai évolué en fait dans le système, j'irais primaire, secondaire, dans les années 80-90. L'évaluation, ça a toujours été un peu un petit secret. Tu sais, comme si le prof t'attend au coin d'un, au coin, puis il dit, ben tu l'as pas. Tiens, je vais vérifier si ils sont bons ou pas, s'ils ont bien écouté. Et donc, tu dois être transformé comme un super étudiant. Mais on doit tous être un peu avec une douance, où on fait attention à tout, à tous les moments. Mais on le sait que c'est pas vrai et que les étudiants, les élèves restent aussi des personnes qui évoluent en dehors aussi de l'établissement, avec leurs différentes identités, leurs différents soucis, etc. Qu'est-ce qui fait que ça paraît pas évident aujourd'hui encore de proposer une évaluation au début? Est-ce que c'est comme si on sentait qu'on donnait les réponses?
J'ai le sourire aux lèvres parce que tu as mentionné plusieurs aspects sur lesquels c'est la réalité, justement. C'est, il y a encore cette vieille mentalité de l'évaluation, c'est comme une punition. C'est comme une façon de s'assurer, est-ce que t'as porté une attention pendant que je donnais mon cours? Est-ce que t'as pris des notes? Sans nécessairement que je te dise de prendre des notes. Fait qu'on a cette vieille mentalité, tu sais, du maître de la classe, où est-ce que, au lieu de taper sur les doigts avec des règles, ben on tape avec les évaluations, les corrections. C'est comme, ah, je vais les avoir. Toi, t'as pas écouté pendant 2 semaines. Ben là, c'est sûr, tu vas échouer ton examen. Donc, c'est pas nécessairement fait au service de l'apprentissage, puis je pense qu'il y a encore cette vieille mentalité-là qui persiste à plusieurs endroits, puis je pense qu'il y a aussi, il y a aussi l'aspect des mauvais plis de carrière, où ce qui est fort probable qu'il y a des enseignants aussi qui n'ont pas encore fait leur grille, ils se promènent en forêt, puis sont en train de monter la grille, ah, il y a des tulipes dans ce coin-là, ah, je pourrais poser une question sur les tulipes, fait que, il y a cette réalité-là aussi de début, de surcharge, de tâches, de si, mais il y a aussi l'aspect de... ils ont peur, comme tu as dit, on dirait qu'ils ont peur de donner les réponses. Ils ont peur de se dire, ah ben, il va savoir exactement sur quoi étudier si je lui dis quoi étudier. C'est tellement ironique ce que je viens de dire, mais c'est la réalité. Puis dans ma tête, il faut tenir compte de la différenciation pédagogique de tous les élèves. Parce que oui, il y a des élèves qui sont doués, il y a des élèves qui ont une facilité d'apprentissage, mais ça, c'est des chiffres minimes sur lesquels qu'on met beaucoup d'attention. Donc, on se concentre sur eux. Et les 20 autres, dans le fond, dans une classe de 30, ben on se dit, c'est à vous d'être à l'heure, c'est à vous d'écouter. Pourtant, c'est ces élèves-là qui ont le besoin de plus de se faire dire de regarder les tulipes, justement. Parce que c'est pas par une mauvaise intention, c'est leur processus d'apprentissage est différent. Fait que c'est pas nécessairement les prendre par la main puis leur donner des réponses, mais c'est tout simplement leur faire comprendre qu'il y a un processus, voici ce que je veux que tu portes une attention particulière parce que je vais probablement te demander des questions concernant cet aspect-là. Fait qu'on, non seulement qu'on les aide, mais on va aussi leur permettre d'avoir un apprentissage beaucoup plus constructif puis organisé. Fait que, bref, moi, c'est mon opinion, mais j'ai ri parce que c'est exactement ce que tu as dit, c'est la réalité.
Ce que tu dis, c'est tellement intéressant parce que, tu sais, ça change même un peu le positionnement de l'enseignant. Tu sais, on dit souvent maintenant que l'enseignant, et on l'a dit pendant très longtemps, je sais pas toi qui as enseigné, en tout cas dans les formations d'enseignants, on a dit pendant longtemps, vous n'êtes pas un passeur de connaissances, mais un facilitateur. Donc, on repositionne l'enseignant comme facilitateur. Mais là, en fait, dans ta démarche d'évaluation, on sent vraiment que l'enseignant, c'est un facilitateur, même mentor, dans le sens où il y a tous les éléments autour. Il est dans la forêt et il dit dès le début, faites porter une attention aux fleurs, regardez au niveau des conifères, puis on va en reparler après, mais j'aimerais que vous regardiez, puis on en reparle après. Puis là, on sent vraiment, tu sais, moi, j'ai cette image de l'enseignant qui prend par la main plus que l'image de, tu sais, avec l'évaluation descendante de, ok, on est tous sur le qui-vive, on a peur dans la forêt, on regarde un peu partout, on sait pas quoi regarder, mais c'est sûr qu'à la fin il y a quelque chose qui va tomber, puis on doit être super en fait dans nos observations, on doit être sur le qui-vive. Et tout de suite, dans ton rapport à l'évaluation, ça change le positionnement aussi de l'enseignant et on le voit plus effectivement comme une personne qui va nous accompagner à développer, à faire attention aux choses, plus que quelqu'un qui nous attend à la fin de la promenade avec la punition de l'évaluation.
C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que je dis une vieille mentalité parce que dans l'ancien temps, il n'y a pas si longtemps, mais c'était vraiment un professeur, un enseignant, c'était quelqu'un qui va transmettre des connaissances. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, avec l'intelligence artificielle, les élèves, ils ont accès aux connaissances. Ce qu'ils n'ont pas accès, c'est comment analyser ces connaissances-là qui ont accès au bout des doigts. Donc, cet aspect-là, il faut le détruire complètement parce que le rôle de l'enseignant, comme tu l'as dit parfaitement, c'est d'accompagner le jeune dans son processus de réflexion et lui indiquer le bon chemin parce que, justement, avec ChatGPT, Google, on a accès à beaucoup plus de connaissances que moi quand j'étais à l'école, qu'il fallait déjà aller à la bibliothèque, ouvrir des livres. Donc, il y a cet aspect-là qui a complètement changé. Donc, je pense que le rôle de l'enseignant devrait s'adapter à la réalité d'aujourd'hui puis permettre à l'élève de vraiment se prendre en main de manière personnalisée puis de comprendre qu'est-ce que l'information qui vient vers lui puis d'être capable de la juger adéquatement puis d'apporter un regard critique et d'analyse. Fait que je pense que c'est là que l'évaluation va vraiment prendre de l'avant pour tout le monde. les parties impliquées.
Exactement. Et toi, dans ton outil que tu utilises, est-ce que tu utilises un petit peu d'intelligence artificielle?
Ben, certainement. Une sorte d'évaluation et de technologie. En fait, nous, ce qu'on est en train de travailler présentement, puis c'est vraiment un projet dada, je dévoile en fait des secrets, ça y est. On travaille vraiment sur la personnalisation parce que moi, je dis toujours que les jeunes d'aujourd'hui sont nés dans le monde, tout est moulé à leur besoin, à leur désir, ce qu'ils aiment. Donc, je regarde mes propres enfants avec les tablettes, Netflix. T'sais, ils ont déjà leur liste de lecture, des propositions, ouais, en fonction de leur goût. Et là, ils tombent dans le système éducatif qui est un carré. Et là, c'est comme, tu rentres dans le carré ou tu rentres pas. Donc, c'est normal que plus que les jeunes vont aller à l'école de plus en plus, si on change pas le système, ben, il va en avoir de plus en plus qui vont débarquer parce qu'ils vont se dire, ben, j'ai accès à l'information déjà à travers les outils technologiques. Mmh. Puis, ils font des choses que je n'aime pas.
Donc, ça arrive déjà, hein?
Oui, vraiment, vraiment. Puis il faut en tenir compte de ça dans le système éducatif. Il faut s'adapter justement à cette personnalisation-là parce que depuis l'âge de 3, 4 ans, 5 ans, ils ont un profil personnalisé technologique autour d'eux. Là. Tu sais, ils savent quand est-ce qu'il faut qu'ils prennent leur souper, ils savent quand est-ce qu'il faut faire... tout est personnalisé selon leur goût. Fait que nous, chez Alexio, ce qu'on est en train de travailler, parce qu'on a déjà le... Dans le fond, selon les commentaires émis de l'enseignant, à travers l'évaluation, il y a des ressources pédagogiques qui vont être envoyées à l'élève sur son compte. Donc, si on dit « attention à ton orthographie », il y a des ressources d'orthographie donc afin de travailler qui vont être envoyées à l'élève. Et là, on est en train de travailler sur l'utilisation. Donc, si l'élève finit par vouloir faire des jeux afin d'améliorer son écriture, ben ça va être des jeux qui vont lui être suggérés à l'avenir. Donc, on veut vraiment personnaliser l'aspect de ressources qu'elle soit faite de manière à ce que si lui il préfère faire des jeux de mots, s'il préfère faire des chercher-trouve. Donc, c'est là que je trouve que le système éducatif a un potentiel énorme parce qu'on va pouvoir stimuler ce désir-là d'apprendre, mais à sa façon et selon ses goûts. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on travaille par rapport à... avec Alexio, c'est sûr, ça prend beaucoup de données, beaucoup de tests. Données. Oui, c'est énormément. Faut nourrir parce que je me suis fait demander, ben ça mange quoi l'intelligence artificielle? Et je dis des données en quantité industrielle. Donc ça d'ici 18 mois, on aimerait ça comme pouvoir le mettre en phase bêta parce qu'on a déjà le référencement de ressources. Ce qu'on veut vraiment mouler, c'est les ressources soient selon les goûts de l'apprenant. Puis encore là, les ressources partent toujours du pédagogue enseignant qui va envoyer selon ses commentaires. Fait qu'on a déjà cette intelligence artificielle qui est dans le système, donc il va pouvoir référer des ressources en fonction des commentaires émis de l'enseignant, selon ses défis ou même ses forces. Fait qu'on veut pas oublier nos élèves qui performent également très bien. Faut leur suggérer aussi des ressources pour qu'ils puissent passer peut-être de 85 à 90. Donc, là-dessus, on va travailler beaucoup, mais mon rêve, éventuellement, comme j'ai dit, j'aimerais ça qu'on soit le Netflix des ressources éducatives.
Wow! OK! Mais là, je me posais cette question justement par rapport au parcours adapté et à la manière dont on peut trouver un juste milieu entre, effectivement, le fait de vouloir s'adapter à l'apprenant, d'aller pousser tous les trucs qui l'intéressent, parce que forcément on est là pour aller saisir son intérêt. On est encore toujours tout au long de la vie dans l'apprentissage qui fait mal, puis l'apprentissage qu'on aime faire parce que c'est en nous et c'est des passions, etc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé justement dans le parcours adapté? Tu sais, tu parlais d'un peu du Netflix, de la ressource éducative. Comment ça se passe en termes de aller regarder un peu dans les sentiers battus? Si je rebondis sur Netflix, justement, il y a un moment, il y avait cette question de, tu sais, on est un peu tous différents, là, dans ma famille. Moi, généralement, tu vas aller trouver dans mon Netflix du contenu afro, parce que voilà, je suis une femme noire, il y a certains contenus sur lesquels j'ai cliqué, certains intérêts, donc j'ai tout de suite un profil, on va me faire du pouce sur ce type de contenu. Mon mari, lui, tu sais, qui est blanc, tu sais, il va boire quelque chose qui est mélangé, mes enfants qui sont métis, ça va être aussi un peu mélangé. Mais par contre, c'est pas parce que je clique effectivement tout ce type de contenu que je pourrais pas avoir l'occasion un jour de découvrir quelque chose auquel j'aurais jamais pensé. Et à l'époque, je sais pas si tu te souviens, Netflix se disait, oh, je crois qu'il y a encore un bouton aléatoire. En fait, tu pousses, tu t'appuies sur le bouton, puis ça donne quelque chose, ça t'emmène vraiment à un endroit où tu t'attendais pas. Comment ça se passe dans le cadre du parcours adapté sur justement les systèmes qui vont de plus en plus s'adapter aux besoins de l'apprenant? Comment ça se passe pour le faire sortir justement? Parce que des fois, on se dit qu'il aime ça, donc on va lui en donner. Mais comment on le fait sortir de ça? Parce qu'il y a d'autres choses qu'il pourrait aimer aussi.
Quelle excellente question. Puis je vais avoir une réponse qui va être juste. J'ai tout pensé à ça. Je suis une grande... Pour moi, l'aspect humain est essentiel dans l'apprentissage. Oui. De toute façon, neurologiquement parlant, il n'y a aucun cerveau qui ne veut pas apprendre. Il est programmé à vouloir apprendre. Donc, c'est tout simplement aller nourrir cette option-là. Et t'as raison, faut pas se revenir vers un moule personnalisé, mais ça reste que le moule, il bouge pas quand même. Fait que le but, c'est comme tu dis, de laisser explorer. Puis surtout, les jeunes... Ils savent pas encore qu'est-ce qu'ils aiment. Tu sais, ça se peut que pendant une semaine, ben ils aiment ça, puis ben même une heure, puis l'autre heure après, ils aiment d'autres choses. Donc nous, en fait, chez Alexo, on est en collaboration avec une entreprise de la Belgique où est-ce que on fait un portrait du bilan émotionnel du jeune qui va tenir compte justement de ce référencement-là. Puis ce bilan-là permet d'avoir c'est un bilan de 2 pages sur où est-ce que ça répond, comment ça va aujourd'hui et comment ça peut aller mieux demain. Et là, c'est le jeune qui répond à un questionnaire d'une 30aine de minutes et là, c'est généré par l'IA, en fait, un portrait qui lui est donné sur ses goûts, en fait, sa perception de soi, sa confiance en soi, selon les différentes activités pédagogiques dans lesquelles il peut se trouver. Et ce test-là, nous, on le suggère, on a des écoles à travers le Québec qui l'utilisent, de le faire minimum 2 fois par année parce que ça change. Donc, les goûts changent. Oui, c'est ça. Ah non, c'est vraiment, vraiment génial. Puis, ça a été bouleversant dans la majorité des écoles qu'on avait faites parce que c'est aucunement en lien avec la performance académique du jeune, ni l'aspect disciplinaire. Donc, quand il y avait eu des petits cris d'alarme à travers cette boussole émotionnelle-là, les enseignants, ils ont dit, ah, oh, ben, c'est impossible, le 90 de moyenne générale, cet élève-là, ça se peut pas qu'elle soit pas bien.
Mais non.
Ouais. Exactement. Puis là, ce qui les a fait rire, en fait, c'est ceux qui ont des notes peut-être moins élevées, puis qui sont considérés, je mets des gros guillemets, plus tannants en classe, ben, eux, ils étaient, t'sais, ils fleurissaient, là, ils étaient bien à l'école, ils étaient dans leur flow. Et là, les enseignants étaient comme, ben voyons, c'est pas possible. Il me semble, ils dérangent toujours la classe. Mais je leur expliquais, j'ai dit, l'élève se trouve exactement où est-ce qu'il veut être. Parce qu'il y a de l'attention, il voit ses amis. Fait que ce bilan-là va être connecté, en fait, à cette technologie-là. Où est-ce qu'on va pouvoir filtrer? Puis faut pas oublier, ce que la majorité ont peur avec l'intelligence artificielle, l'enseignant, le professeur, le côté humain ne pourra jamais, en tout cas pour le moment, être remplacé par une machine. Parce que pour qu'un élève se développe, ça prend de l'amour. Ça prend de l'amour humain, c'est pas juste des mots, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas, chaque humain est différent, puis il n'y a aucune machine qui va être capable de donner ça à l'élève. Fait que le fait que c'est l'enseignant qui contrôle ces ressources-là, dans le fond, c'est le point de départ. Fait que là, ce que ça fait, c'est que l'enseignant va pouvoir donner des références en fonction du besoin de l'élève. Fait que ça se peut que ça change d'une semaine à l'autre. Fait que même si lui aime les jeux, ben il va recevoir d'autres types de références, de ressources pédagogiques à cause que c'est l'enseignant qui contrôle, en plus du bilan. Fait que je me suis étendue un peu, mais c'est tout simplement pour t'as donné une idée que oui, c'est une réalité qu'il faut en tenir compte, puis il faut pas du tout mouler encore à nouveau avec la personnalisation. Il faut toujours garder l'esprit ouvert, puis surtout essayer aux jeunes d'essayer les différentes variantes qui sont offertes à eux.
On avait déjà vécu une sorte de grosse vague avec la pandémie. L'intelligence artificielle, c'est notamment générative avec l'arrivée d'applications d'IA générative comme ChatGPT, ça vient remettre en question des choses. C'est comme si on a des piqûres de rappel en enseignement pour dire, hé, les gars, c'est plus comme ça. Tu sais, il faut changer. Il y a quelque chose qui doit changer. Donc encore une fois, dans cette conversation, tu sais, je comprends que on parlait de correction versus évaluation, mais l'évaluation, c'est un point d'entrée sur nos changements de pratique. Parce que vraiment là, les étudiants qu'on accompagne sont les adultes de demain Et il y a toujours cette préparation, en fait, à un monde, nous, on le connaît pas encore très bien, ce monde, on est en train de rentrer dedans, mais à un monde qui va être différent en termes de réflexion, en termes de pensée critique, et ça, il y en a de plus en plus besoin avec les réseaux sociaux
tellement,
et tout ça.
Tellement, justement, c'est développer l'esprit d'analyse et de critique qui va être essentiel pour les adultes de demain parce que l'IA générative, elle est là pour rester. On vit une révolution d'intelligence artificielle et ça me fait penser quand que justement, quand l'ampoule est arrivée, il y en a beaucoup qui se promenaient avec leur chandelle puis on dit ah c'est le diable, tu sais, puis ils ont resté avec leur chandelle et là j'ai l'impression qu'on est en train de vivre ça avec l'intelligence artificielle où est-ce que la majorité prennent la décision de garder la chandelle, mais pourtant ça va venir bouleverser positivement si on développe l'esprit critique, puis l'esprit d'analyse, puis l'esprit humain à travers les évaluations dans les écoles. C'est ça qui va faire en sorte que l'intelligence artificielle va être mise positivement de l'avant et non pas utilisée à nous guider, si on peut dire, puis à nous dire quoi faire. Fait que c'est là qu'il faut mettre l'accent. Donc, faut promouvoir l'évaluation. Puis, l'évaluation, c'est pas toujours des grilles. Des fois, les gens, ils pensent que c'est toujours une grille. L'évaluation, c'est répondre à une question, c'est donner une rétroaction on the spot, comme qu'on dit, tu sais, l'élève travaille sur quelque chose, le remettre sur le bon chemin, ça, c'est une évaluation parce qu'on constate que ça va pas vers l'angle qu'on souhaite. Fait que ça se fait au quotidien. C'est ça que des fois, les gens, ils ont peur de l'évaluation, ils pensent que c'est exhaustif, mais pas du tout. Si c'est fait de manière régulière, rendu à la fin de l'étape, ben, il y aurait plus la charge de la fin de l'étape ou la fin de session. Il y aurait plus cette lourdeur-là parce que l'évaluation a été faite tout le long. Fait que logiquement, elle devrait aller beaucoup plus doucement et beaucoup plus de manière beaucoup plus fluide rendue à la fin.
Ben super. Bon, en tout cas, je te remercie infiniment de cet échange sur l'évaluation et je vous souhaite vraiment d'inspirer de nombreux établissements à évoluer ou remodeler leur pratique. Merci en tout cas beaucoup,
Merci
Azra.
Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça a été un réel plaisir de passer ce beau moment avec toi. C'est très enrichissant. Donc, merci de m'avoir reçu.
Merci, à très bientôt.
Bientôt.